Alors bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, François Sureau. Et nous sommes là pour parler de cette biographie. Non. Ça ne s'appelle pas, intentionnellement, nous y reviendrons, ça ne s'appelle pas biographie, mais portrait d'Indigo, prénom derrière lequel se cache Ignace de Loyola. Et vous n'avez pas pu être là lors de notre premier rendez-vous. Vous avez la gentillesse que tous vos confrères ne font pas. Et bien d'avoir repris rendez-vous pour retrouver le public bordelais qui avait été déçu de ne pas vous rencontrer. Et justement, je voudrais vous poser cette première question. Vous n'avez pas pu venir à cause du métier que vous exercez, qui est celui d'avocat, et vous aviez... C'était quoi, une obligation
Ah oui, je peux vous dire ce que je peux. Pour les malheureux qui étaient venus la première fois et qui, peut-être, s'ils ne sont pas totalement dégoûtés, sont peut-être dans la salle, je vais vous donner ma véritable excuse. C'est qu'il y a quelques années, avec une quarantaine d'avocats parisiens, mon métier d'avocat normal est un métier plutôt classique, où je suis plutôt avocat de grande société, je fais plutôt des choses de genre. Et puis avec une quarantaine d'avocats, on a décidé, ça a été, je dois dire, ma seule contribution à l'existence, entre guillemets, de l'Église institutionnelle, en lien avec le service jésuite aux réfugiés, de créer une association qui est une association d'assistance juridique gratuite aux demandeurs d'asile qui demandent à bénéficier de la Convention de Genève sur le territoire national. Et l'un des problèmes, c'est une activité absolument passionnante, comme avocat, c'est une activité passionnante, et sur le plan humain, c'est naturellement passionnant aussi. Et ça présente un seul inconvénient, c'est que ça donne lieu à un assez grand nombre de procédures d'urgence, notamment de procédures de référé, où on apprend le matin, parce qu'un de vos clients a été emmené au poste pour être expulsé dans le pays d'origine le soir, qu'il va falloir aller plaider devant un juge le soir. C'est la raison pour laquelle j'ai pas pu être là la première fois. En particulier, mais on va pas parler de ça trop longtemps parce que c'est un sujet qui me passionne et qui n'a que peu de rapport avec Ignace. En particulier parce que la France applique une règle qui consiste, vous savez, quand un demandeur d'asile, moi je m'occupe beaucoup de demandeurs d'asile afghans, éthiopiens et érythréens. Alors les éthiopiens et les érythréens, ils arrivent par l'Afrique, on n'a pas tellement de problèmes, ils arrivent directement en France en réalité. Mais les afghans, ils arrivent en passant par la Grèce. Et il y a un règlement communautaire qui impose à ce moment-là à la France de renvoyer les demandeurs d'asile en Grèce pour que leur demande d'asile soit étudiée en Grèce. Le seul inconvénient, c'est que comme la Grèce n'étudie pas les demandes des demandeurs d'asile et les renvoie en Turquie, les malheureux sont exposés à ce qu'on appelle des traitements inhumains et dégradants, et c'est la raison pour laquelle nous plaidons, non pas qu'ils aient des papiers, comme on dit en France, mais à ce qu'au moins leur demande, quitte à ce qu'elle soit rejetée, soit examinée en France par une administration compétente, ce que n'est pas l'administration grecque. Et tout ça se passe en 4 ou 5 heures de temps, et c'est la raison pour laquelle j'ai dû rester vissé à mon bureau pour un malheureux garçon qui, je m'en souviens, était un Afghan du Helmand, dont la famille avait été exterminée sous ses yeux par les talibans qui ont conquis cette province il y a à peu près 6 mois maintenant.
Vous êtes donc avocat, vous avez cette activité parallèle et importante, cette association a un site d'ailleurs. Hein,
oui.
Vous avez été maître des requêtes au Conseil d'État, vous sortez de l'ENA, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour être ministre, je suis étonné que vous ne le soyez pas d'ailleurs.
Il devait me manquer quelque chose.
Est-ce que l'activité littéraire, l'activité d'écriture, c'est un hobby ou bien est-ce que c'est essentiel? Et question un peu sotte, mais enfin, si vous fallait sacrifier quelque chose, est-ce que vous sacrifieriez votre métier, vos fonctions ou l'écriture?
Écoutez, c'est une question qui est extrêmement profonde, passionnante et à laquelle il est difficile de répondre. Je vais essayer d'y répondre avec la plus grande sincérité. Pendant des années, j'ai choisi le Conseil d'État puis ensuite le métier d'avocat parce que ça me permettait de gagner ma vie à côté de la littérature parce que je trouvais que la littérature était quelque chose d'absolument essentiel. Donc j'ai publié une dizaine de livres et un peu plus. Et puis vraiment, la littérature était pour moi quelque chose d'essentiel. Et jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, vous m'auriez posé la question, j'aurais répondu sans hésitation. Si j'avais la fortune que je mérite, naturellement, je ne ferais qu'écrire. Maintenant, ceux d'entre vous qui me demanderaient d'abandonner le métier d'avocat devraient aussi se cotiser pour me permettre de subvenir à mes besoins pendant que j'écris des livres. Parce que ce livre-là, à ma grande surprise d'ailleurs, doit être le premier livre dont j'ai vendu un nombre d'exemplaires suffisant pour pouvoir arrondir mes fins de mois. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. J'adore faire de la littérature, mais dire, c'est, je ne suis pas Marc Lévy. Et donc, ça aurait été assez difficile. Et puis, je ne suis pas sûr maintenant de voir les choses de la même manière. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est dû à la fréquentation assidue d'Ignace de Loyola, mais je suis plus qu'avant averti des pièges de la littérature. Ça vous paraît très curieux, mais il y a un piège dans la littérature qui a été magnifiquement décrit par Claudel quand il explique dans sa traduction libre des psaumes. Il y a un moment, vous savez, Claudel a pris les psaumes et puis il a mis du Claudel en face. Alors c'est les psaumes et puis c'est du Claudel. Il y a un moment où il a cette phrase magnifique « Parce que je n'ai pas connu la littérature, j'entrerai dans les puissances du Seigneur ». Cette phrase m'avait longtemps révolté avant que j'en comprenne le sens véritable. Le sens véritable, c'est qu'il y a un exercice de la littérature qui est vain pour le lecteur et qui est dangereux pour l'auteur, qui est l'exercice dans lequel on fait servir la littérature simplement à l'expression un peu narcissique de sa manière de voir le monde, de son monde intérieur, de ses sentiments propres, et où au fond, on ne fait pas, pour employer un terme ignatien, avancer le royaume. Alors, il y a effectivement de très grands écrivains, au nombre desquels je ne suis pas, qui peuvent courir le risque, qui peuvent courir ce risque véritablement spirituel, en se disant, Mauriac l'a fait par exemple, Mauriac était extrêmement convaincu, Julien Green aussi, du danger qu'il y avait à écrire. Et ils l'ont fait avec l'idée de dire, au fond, Dieu m'a rendu l'heureux possesseur d'un talent, et eh bien voilà, je peux courir ce risque pour en mettre les fruits à la portée de tout le monde. Comme je ne suis pas absolument convaincu d'avoir le talent de Mauriac et de Julien Green, très franchement, si vous posez la question, entre le métier d'avocat et la littérature, vous voyez le métier d'avocat d'affaires, quoi, la littérature, je vous dirais, laissons tomber le métier d'avocat d'affaires. Mais entre m'occuper des réfugiés et écrire des livres, j'ignore la réponse. Très sincèrement, j'ignore la réponse. Je sais maintenant, à l'âge que j'ai, que je n'écrirai pas Madame Bovary. En revanche, je sais quand on plaide pour un type et que sa cause est juste, et qu'on arrive à lui donner une autre vie, on a un sentiment, d'accomplissement profond qui ne se compare pas avec l'accomplissement littéraire du type d'écrivain que je ne pourrais qu'être, c'est-à-dire un écrivain, certes, vous voyez, je vous en parle avec une grande franchise, certes talentueux, mais de deuxième ordre. Voilà.
Bon. Cet écrivain talentueux a publié déjà un certain nombre de livres. C'était l'ouvrage précédent, celui de 2007,
L'obéissance.
Un livre que j'avais beaucoup aimé et qui était une histoire tout à fait singulière. Ça se passait à la fin de la Grande Guerre, et, en 18, je crois. Et pour faire plaisir au roi des Belges, c'est moi qui le raconte, c'est vous qui devriez le faire. Mais voilà, pour faire plaisir au roi des Belges, on avait envoyé à Furnes, le bourreau de la République, avec tout son petit matériel, les bois de justice qui suivaient. Et il avait traversé toute la France en guerre, dans des conditions évidemment assez mouvementées. Et ce livre, vous dites c'est celui-là qui s'est vendu le mieux de tous les livres. Il avait eu un considérable succès de presse, en tout cas.
Hein. Oui, non, il s'est bien vendu aussi, le précédent. Oui, non, mais j'ai des goûts de luxe, quand je dis il faudrait vraiment qu'il se vende beaucoup pour que je ne puisse faire que de la littérature, quoi. C'est ça que je...
Alors, est-ce que, par rapport, par exemple, à l'obéissance et aux ouvrages précédents, est-ce que Inigo marque dans votre cheminement littéraire, ou dans votre carrière, je ne sais pas quel est le terme juste, est-ce que ça marque une rupture, un tournant décisif? Est-ce qu'il y a un lien entre Inigo et les ouvrages qui précèdent, ou est-ce que c'est vraiment un ouvrage totalement singulier?
Il y a un lien. Il y a un lien qui est que dans les ouvrages qui précèdent, notamment l'infortune qui se passait aussi en 14-18 et puis l'obéissance, la question que j'ai essayé d'aborder sur le plan littéraire, c'était la question de, au fond, d'un homme innocent dans le monde coupable, c'est-à-dire d'un homme affronté à des circonstances historiques particulières, l'absurdité de la guerre, le mouvement de l'histoire, Et qu'est-ce qu'il peut en faire? Qu'est-ce qu'il peut en penser? Comment ça l'affecte? Comment retrouver une forme d'innocence, une forme de morale, dans le sens le plus profond du terme? C'est que dans ses notes sur la littérature, Stevenson explique, au rebours de l'opinion gidienne que j'ai toujours trouvée idiote, qu'on ne fait pas de grande littérature sans morale. Et c'est parfaitement exact, dans le sens le plus profond de ce terme. Parce que le principe moral est le choc entre le principe moral et les circonstances particulières, c'est de ça que naît, au fond, une certaine forme d'énergie littéraire. Alors, ça m'avait fasciné dans l'exploration de circonstances très particulières, comme celle que vous avez décrite. L'affaire de Furnes, c'était absolument passionnant. Cette épopée du... C'est parfaitement exact, sur le plan historique. Cette épopée du bureau de Paris qui est envoyée, qui traverse les lignes de la bataille des Flandres, qui traverse les lignes avec un sauf-conduit allemand délivré par le consul d'Allemagne à Berne, puisque les Allemands avaient accepté qu'il traverse les lignes, pour aller exécuter en zone d'occupation allemande de la Belgique un condamné à mort par les autorités belges, ça me paraissait résumer non pas tant l'absurdité de la guerre, parce que ça c'est un point de vue un peu naïf, mais ça me permettait de mettre en scène les différentes raisons qu'un homme pouvait avoir d'accomplir son devoir. Le roi des Belges décide d'exécuter, le chef d'état-major français décide que ça serait bien d'aider un allié, il accomplit son devoir, il demande des volontaires. Il y a là un lieutenant de Légion étrangère, Manchot, qui est en fait une sorte de Blaise Cendrars, qui se dit « je peux plus me battre, mais au moins je veux retourner au front avec mes camarades ». Donc lui, il obéit aussi à un mouvement particulier. Le bourreau de Paris, qui décide d'accepter parce que c'est son métier. Et donc tout le monde se trouve entraîné par des sentiments absolument respectables, au service d'une cause qui n'est pas absurde, parce qu'on pouvait tout à fait concevoir, par exemple, que le roi des Belges décide de faire exécuter un condamné par la justice civile plutôt que par la justice militaire, pour manifester que cette guerre, la grande guerre, était effectivement la guerre du droit, et que c'était pas parce qu'il y avait la guerre qu'on devait s'exempter de toutes les formes juridiques. Donc rien de tout ça n'est absurde, l'ensemble du contexte est épouvantable, et donc c'était passionnant sur le plan littéraire d'essayer de se mettre à l'intérieur de la tête, de la psyché, du cerveau de ceux qui avaient à accomplir leur devoir dans ces circonstances-là. Donc la vraie question que je me posais là-dedans dans mes livres antérieurs, c'était le caractère déchiffrable du monde et le caractère respectable des comportements individuels, déchiffrable ou non et respectable ou non. Alors avec Ignace... en fait, c'est la même chose, sauf que c'est beaucoup plus radical, puisque la question qui est posée par Ignace, c'est la question directe de la transcendance, c'est-à-dire est-ce que je fais, est-ce que l'homme doit faire, comment peut-il faire ce que Dieu attend de lui ? Ce qui est pour Ignace, je pense qu'il faut se débarrasser en lisant Ignace d'une part de ce que le 19e siècle nous a mis dans la tête en matière de volonté divine. Quand Ignace dit « faire ce que Dieu attend de nous », ça n'est pas obéir à un commandement, ça ressemble plutôt à ce qu'en pensaient les pères du désert. Faire ce que Dieu attend de nous, c'est être véritablement nous-mêmes. Il n'y a pas de nous-mêmes. En dehors de ce que Dieu attend de nous, il n'y a que des idoles dont il faut savoir se débarrasser. Et ces idoles n'apportent que de l'incertitude, du trouble, des émotions négatives, comme dit Ignace, et du malheur. Et donc faire ce que Dieu attend, ça n'est pas se sacrifier et en baver comme un druze avec l'idée qu'on fait le bien, pas du tout, c'est la seule manière d'être soi-même. Et cette manière d'être soi-même suppose d'en finir avec les idoles de nous-mêmes, que nous nous formons en permanence, comme les idoles de Dieu que nous nous formons en permanence. Et donc, il y a, dans la vie d'Ignace, une sorte de traversée des apparences, apparence de nous-mêmes, apparence du divin, apparence de la politique, une traversée des apparences qui est ce qui m'a toujours intéressé en littérature, alors même que je parlais d'autre chose, traversée des apparences politiques, des apparences du pouvoir, des apparences de l'histoire dans les livres antérieurs.
Alors on va essayer d'analyser d'une façon plus précise ce qu'est cette traversée des apparences chez Ignace, mais il y a quand même une chose que je voudrais souligner. Vous avez parlé de Julien Green. Et quand Julien Green écrit un ouvrage sur Saint-François d'Assise, qu'il appelle Frère François, il est animé depuis longtemps, il y a qu'à lire son journal certains de ses livres, il est animé d'une très profonde admiration pour François d'Assise et d'une admiration qui va jusqu'à la complicité intime, qui va jusqu'à la fraternité, Frère François, n'est-ce pas bon. Et vous, c'est pas du tout la même chose, puisque, puisque le bandeau de votre livre, n'est-ce pas, disait « J'ai longtemps détesté Ignace de Loyola ». Bon, ben voilà, on est fixé quand on ouvre le livre. Alors, pourquoi détestiez-vous Ignace de Loyola et pourquoi avez-vous cessé de le détester en lui consacrant un portrait?
Alors, je vais raconter comment ça s'est fait, parce que ça m'a surpris moi-même. Comme beaucoup de gens à Paris et j'imagine à Bordeaux, parce que quand j'étais jeune, il y avait à Bordeaux un collège jésuite, je pense que ça... je sais qu'il existe toujours.
Saint-Joseph de Tivoli.
Voilà.
La couture a fait ses études.
Absolument. J'ai été élevé par les jésuites. Et l'histoire commence là. Pourquoi ? Elle commence là pour une raison assez mystérieuse, qui est que, alors, de mon temps, un collège jésuite, c'était un collège jésuite, c'est-à-dire que le recteur était jésuite, les préfets étaient jésuites, il y avait des jésuites partout, il n'y avait pas de filles, enfin, c'était vraiment comme autrefois. Et donc, moi, ça m'avait absolument fasciné de rencontrer dans ce collège des pères qui, pour la plupart, pas tous, mais certains d'entre eux sont morts maintenant, pour la vie desquels, le comportement desquels et l'enseignement desquels j'éprouvais une très grande admiration. Je me demandais comment, je me souviens, il y avait un professeur de physique qui avait fait une très belle guerre, qui est mort maintenant, qui était polytechnicien et qui vivait très pauvrement après avoir donné l'exemple d'un très grand courage physique au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et moi qui étais un élève absolument agnostique et détaché de toutes ces choses, j'avais une espèce d'étonnement, fasciné pour cet homme qui, au fond, aurait pu devenir, je sais pas quoi, moi, président de Saint-Gobain s'il l'avait voulu, ça n'était que trop visible. Et qui pourtant vivait en sandales à enseigner aux jeunes crétins que nous étions les rudiments de la physique, après s'être montré tout à fait héroïque pendant la guerre et être rentré dans l'anonymat. Et ça me fascinait, c'est-à-dire dans un monde de faiseurs qui est le nôtre, quoi, globalement, ça me fascinait absolument, et je me suis mis à m'intéresser, curieusement, alors même que ma foi était faible ou vacillante, je me suis mis à m'intéresser aux jésuites eux-mêmes. Alors après, j'ai découvert des figures absolument étonnante, qui allait à rebours de la légende noire des jésuites, vous savez, le côté arriviste, carriériste, manipulateur, politique, etc. Le père de Moncheuil, par exemple, que j'ai énormément aimé, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Problème de vie spirituelle », qui a été fusillé au Vercors, pour lequel il s'était porté volontaire, il n'avait rien à faire là. Michel de Certeau, qui a été membre de l'école freudienne de Paris, qui est un très grand commentateur des œuvres du Père Surin, qui est un grand spécialiste de la mystique, et dont la liberté d'esprit...
de Julien Green,
voilà,
sûr.
Et dont la liberté
d'esprit... C'est Bordelais.
Oui, monsieur, c'est Bordelais, absolument. Il donne une description du paradis dans Triomphe de l'amour de Dieu sur les puissances de l'enfer, dans lequel il explique qu'au paradis, on entend aboyer des chiens de chasse et qu'on boit du vin de Bordeaux, ce qui est assez, assez merveilleux. Et Certeau écrivait en outre une langue absolument magnifique et pas du tout cléricale, tout comme Moncheuil. J'ai toujours eu horreur d'une certaine forme de vocabulaire clérical. Et une langue splendide, enfin bon, Moncheuil, Certeau, le père de Lubac, dont j'ai découvert ensuite Paradoxe et Mystère de l'Église. Enfin, tous ces esprits m'apparaissaient comme des esprits de premier ordre, d'une extrême liberté individuelle. Ça tranchait tout à fait sur l'espèce de, vous savez, de bruit de fond du jésuite périndé à cadavère, totalement soumis au pontife romain et faisant ce qu'on lui dit de faire. Et donc il y avait là une sorte de le mystère de la vie de mes maîtres, hein, qui ne parlaient jamais de ce qui les animait, l'impression donnée par ces esprits de premier ordre, m'a conduit à m'intéresser aux fondateurs. Et je me suis dit, comme j'aime bien les livres et que j'aime bien... et que j'attache surtout de l'importance à la littérature, et bien plutôt que d'écouter des gens parler d'Ignace, je vais aller dans une librairie et je vais acheter les œuvres complètes d'Ignace de Loyola. Il y a une très bonne édition comportant à la fois l'ensemble de sa correspondance, les constitutions, les exercices spirituels, le journal mystique des dernières années de sa vie, et je vais les lire. Et j'ai commencé par les exercices spirituels, et là, je dois vous dire que mon aversion, mon dégoût ont été absolument immédiats. C'est-à-dire que je trouvais ça simplement ridicule. Je trouvais que c'était l'œuvre d'un gibier de psychanalyse. Alors évidemment, comme j'ai fait un peu d'histoire, je me disais, bon, tout ça, c'est du langage post-médiéval. C'est-à-dire, dès la deuxième page, vous êtes mis en face de l'enfer, de la damnation, de votre propre faute, dans des termes effarants. Les métaphores monarchiques et militaires sont omniprésentes. Enfin, je trouvais ça soit dégoûtant, soit risible. Bon. Alors, j'ai donc refermé les exercices spirituels. Les jésuites disent en général que les exercices spirituels ne sont pas faits pour être lus, mais pour être donnés. C'est vrai, mais néanmoins, on tire toujours quelque chose d'un texte quand on le lit. Et donc, ce que j'avais lu ne me plaisait guère. Alors après, j'ai commencé à lire la correspondance. Et là, je me souviens très bien du moment où ça a changé. Plutôt vers la fin de sa vie, il écrit à François de Borgia, qui devait devenir son successeur, à un moment où il était... quand même très avancé dans les voies mystiques, favorisé de visions de Dieu presque analogues à celles qu'il avait eues à Manresse, on en reparlera ensuite, pleurant en célébrant la messe au point que ses cils étaient usés par les larmes, devenu d'ailleurs presque déjà l'un des premiers saints de la chrétienté, il écrit à François de Borgia « Pour moi, à la fin de ma vie, je sais que je ne suis qu'obstacle à la grâce divine. » Et là, cette phrase, bizarrement, m'a incroyablement frappé. Je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un son, il y a une sincérité transcendante, quelque chose qui vient d'ailleurs, une voix qui le traverse, parce que cette phrase était dite sans amertume, qu'elle était dite avec un sentiment de confiance, d'abandon et d'acceptation, il faut absolument que j'aille voir de plus près, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à sa vie, jusqu'à me rendre compte de la manière dont les expériences mystiques qu'il avait vécues à Manresse en particulier étaient à l'origine des exercices spirituels. Et puis alors j'ai commencé à me réintéresser à sa vie de manière microscopique, je vais en dire un mot ensuite, et c'est progressivement que j'ai commencé à le comprendre jusqu'au point où à présent, je vous prie de le croire, les exercices spirituels me paraissent l'un des plus grands livres que l'esprit humain ait produit et plus du tout un monument de littérature archaïque. Alors comment est-ce que j'ai fait pour essayer de le comprendre? J'ai essayé d'adopter une méthode simnonienne. Je ne suis ni théologien, ni historien, j'étais même pas un spécialiste de l'Espagne, pas un spécialiste de la mystique espagnole. Et donc j'ai pris le récit qu'il a dicté de sa jeunesse à la fin de sa vie à son secrétaire qui s'appelait Paul Anco, qui est un récit d'une sécheresse absolument incroyable. Vous savez, quand vous lisez les différentes versions, notamment il y a une partie de fragments en italien vers la fin qui est tout à fait passionnante, vous avez à ce moment-là, il fut favorisé de divers signes de Dieu, d'une conscience exacte de la réalité divine, virgule, etc. Un homme qui est favorisé d'une conscience exacte de la réalité divine, virgule, etc. Comme si ça allait de soi. Il y a une volonté de... Vous voyez ce que je veux dire, une sorte de rétractation, une volonté de... une indifférence complète pour l'apologétique mystique, quoi. Il ne se soucie pas tellement de dire ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vu, il ne s'en soucie pas. Donc ce récit est assez sec. Et donc j'ai pris le récit et j'ai essayé, ça, ce que je veux dire va vous paraître probablement un peu étonnant, j'ai essayé de me mettre à sa place. J'ai essayé de me mettre à sa place, j'ai essayé de transposer sans arrêt. C'est-à-dire, j'ai essayé de reconstituer son enfance. Vous savez, chacun d'entre nous, au fond, la grande pensée d'Ignace, je ne suis pas un interprète qualifié, mais ce qui est fascinant dans l'exercice spirituel, je m'en suis rendu compte à la fin, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Il y a un théologien jésuite pour lequel j'éprouve une très très grande admiration personnelle qui a écrit deux très belles pages là-dessus, qui s'appelle Joseph Moins, qui doit être assez âgé maintenant. Et il parle du jeu dans les exercices spirituels. Le jeu est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que les exercices spirituels visent à mettre en scène véritablement l'individu lui-même dans sa singularité, c'est-à-dire dans chacune de nos vies, la vôtre, la mienne, il y a des signes microscopiques et ça peut être quelque chose dont vous souffrez parce que ça vous est arrivé il y a 40 ans, une joie que vous avez éprouvée la semaine dernière, quelqu'un qui vous a dit une parole aujourd'hui, et ça, c'est des signes de Dieu qui rendent votre vie déchiffrable et par rapport auxquels il faut savoir s'ordonner. Afin de cesser de vivre comme des papillons aveuglés par des lumières différentes. Et donc il y a une centralité du jeu, si je puis dire, chez Ignace, qui est absolument passionnante. En même temps, Ignace pense, comme Proust, si je puis dire, que nous éprouvons tous globalement les mêmes émotions, que bien que le jeu soit central, ce que nous nous disons, ce que nous sentons, est parfaitement communicable. Et donc, armé de cette idée, je me suis dit, au fond, je vais essayer de me mettre à sa place et de voir, alors en transposant naturellement, ce que j'aurais ressenti si j'avais été lui, au moment de la bataille de Pampelune, au moment de la blessure, et pour mieux comprendre ce qui lui était arrivé. Et puis, ce faisant, donc, je me suis mis à vivre avec lui comme on fait les exercices spirituels. C'est-à-dire que je me suis mis à vivre avec lui en faisant ce qu'il appelle des compositions de lieux, pratiquement jour après jour. C'est-à-dire que je suis resté, j'ai mis 3 ans à faire le livre, et je suis resté peut-être 3 mois sur la bataille de Pampelune. C'est-à-dire que j'étais plongé tous les jours dans la bataille de Pampelune, jusqu'à la blessure incluse. Alors, pour la blessure, je me disais, évidemment, je ne me suis jamais fait broyer la jambe par un boulet de canon. Mais enfin, je me suis demandé, j'ai essayé de me souvenir des moments où j'avais eu très mal et comment ça faisait. L'expérience de la guerre, par exemple. Bon, évidemment, je ne me suis jamais battu à la hallebarde, et puis j'ai même jamais non plus vidé un trop grand nombre de chargeurs, mais j'ai quand même été en Yougoslavie, j'ai été en Afghanistan. Je me suis rappelé de ce qu'on sent juste avant qu'un combat ne commence, juste avant qu'un tir d'artillerie ne commence. Ce qui est exactement le cas, ce qui est exactement ce qu'a dû ressentir Ignace la veille de la bataille de Pampelune, dans les moments où tout est calme et où on se dit, après tout, demain, je peux quand même prendre un mauvais coup, qu'ai-je fait de ma vie, vous voyez, et j'ai essayé de le suivre pas à pas de cette manière, et c'est à la fin, et non pas au début comme pour Julien Green, c'est à la fin où je dois dire qu'Ignace m'est apparu entièrement fraternel et ne m'a jamais abandonné depuis, si je puis dire.
Alors j'ai deux questions qui me viennent à la fois, et je ne peux pas poser deux questions à la fois, parce que ça, et en effet, c'est le béaba de l'interview. Donc je vais choisir la seconde. Et vous parlez de la bataille de Pampelune, vous dites qu'elle vous a donné beaucoup de travail, et c'est en effet un des grands moments du livre, n'est-ce pas ? Ce sont des pages extrêmement marquantes et dont on voit qu'elles ont été, en effet, l'objet de beaucoup de soins. Cette bataille de Pampelune, d'abord, rappelez-nous ce que c'est que cette bataille de Pampelune, et ensuite, pourquoi elle est importante. Et ensuite, quand même, c'est aussi le livre. La première question que je voulais poser, c'était, vous nous parlez de la biographie, je me suis tourné vers la biographie, non, vous êtes tourné vers la jeunesse d'Ignace uniquement. Bon. Mais dans cette jeunesse, il y a en effet la bataille de Pampelune, l'élément déterminant que va constituer cette blessure, cette jambe fracassée par un boulet de canon. Pourquoi cette bataille est Qu'est cette bataille? Pourquoi est-elle importante? Et pourquoi, qu'est-ce qui se passe en Espagne à ce moment-là? Pourquoi est-on à un moment où quand même la Renaissance va arriver très prochainement, n'est-ce pas? Il y a un moment où le monde est en train de basculer, de vaciller.
Alors là, il y a dans votre question, non pas deux, mais quatre questions auxquelles je vais répondre par 6 réponses. Le premier élément que je voudrais dire, c'est... Ignace à Pampelune, Ignace avant Pampelune, d'ailleurs quand il est page, et puis ensuite Ignace après Pampelune... Qu'est-ce que j'ai essayé de faire avec ça? J'ai essayé de donner du sérieux à ce que les pères de l'Église orthodoxe appellent les passions. Vous savez que les catholiques latins ont plutôt une idée des péchés capitaux et que les orthodoxes ont plutôt une idée des passions. Quand vous lisez la littérature spirituelle, très souvent, on vous explique qu'il faut, il est malvenu de céder à la passion de la luxure, à celle de la gourmandise ou à celle de l'ambition. Et on vous le dit en termes presque généraux. Vous voyez. Bon. Ce que j'ai essayé de faire comme romancier, c'est à essayer de leur rendre... de la chair, à essayer de leur rendre du corps, vous voyez. Il faudrait pouvoir décrire la passion de la gourmandise comme quelqu'un qui vraiment aimerait manger. Nous savons tous ce que c'est, quoi, d'aimer les choses qui sont véritablement bonnes. Je rentre pas dans le détail avec la passion de la luxure, mais c'est exactement la même chose. Quant à la passion de l'ambition, il faudrait pouvoir se mettre à l'intérieur de l'esprit d'un homme politique véritablement ambitieux, de voir tout ce qu'il aime dans l'ambition, les palais nationaux, les tapis de la savonnerie, le dos courbé des personnes qui s'adressent à lui, les milliers de demandes qui lui sont adressées, le sentiment d'être important, la jouissance frénétique du pouvoir exercé de la manière la plus matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? Très souvent, on décrit le péché comme s'il n'existait pas. Alors, ce qui est fascinant chez Ignace, c'est qu'il a eu une conscience incroyablement aiguë et charnelle de la manière dont il existait. Il adorait les duels, il adorait les femmes, et je pense même qu'il a adoré la guerre. Parce que, bon, j'ai jamais été à Verdun ou à Stalingrad, et c'est vrai que la guerre est une chose horrible, mais je vois très bien comment on peut l'aimer, surtout avant qu'elle ne commence. Vous voyez, je veux dire, cette atmosphère de temps suspendu, la camaraderie, le monde qui a disparu et qui n'existe plus, le sentiment de pouvoir s'illustrer, le goût de la gloire qui était très très présent chez lui, tout ceci existe. Et donc j'ai voulu le décrire avec leur poids de réalité. Voilà, ça c'est le premier élément. Je trouve que très souvent, quand on lit le catéchisme des vices et des vertus, si je puis dire, le poids de réalité du péché disparaît, au point qu'on se demande pourquoi c'est pas plus facile d'être un saint. Ben, c'est pas facile, parce que le monde que nous voyons est infiniment plus délectable, sauf pour les mystiques, que le monde que nous ne voyons pas. Et encore faut-il savoir décrire ces délices. Et de ça, Ignace, qui curieusement, il y a un très beau livre d'un cardinal jésuite qui s'appelle Spidlik, qui est un tchèque, qui a écrit un très beau livre là-dessus sur Ignace de Loyola et la spiritualité orientale. De cela, curieusement, Ignace a une vision charnelle et directe, implicite mais réelle, qui est beaucoup plus proche de celle des ascètes orientaux que de tout autre mystique de son temps. Donc c'est très intéressant. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire. Alors ensuite, pourquoi est-ce que la période est intéressante? Elle est intéressante à au moins deux ou trois titres. Le premier élément, premier point, c'est que c'est la fin du Moyen-Âge. Globalement, alors ce que je vais dire, évidemment, hérisserait un historien des religions, mais si vous voulez, c'est très bien expliqué dans le livre de Coiré, du monde clos à l'univers infini. Globalement, l'ordre du Moyen-Âge est d'un ordre où la cité de Dieu, au sens imaginé, est reproduite sur Terre dans le cadre d'un univers où globalement la société des parfaits groupée dans les monastères, alors, exception faite des ordres mendiants naturellement, est opposée aux laïcs qui font ce qu'ils peuvent de leur côté, et puis on peut mener dans les monastères une vie parfaite, et il y a un ordre divin qui est un ordre transcendant, immuable, portant sur un monde géographiquement limité. Cette perspective verticale se renverse au moment de la Renaissance, où en réalité le centre de tout devient non pas le transcendant mais la conscience individuelle, ce qui explique en partie la réforme puis la contre-réforme, et même la pensée d'Ignace, puisque Ignace en réalité place, comme d'ailleurs curieusement, enfin pas curieusement, mais saint Thomas l'avait fait avant lui, mais Ignace place la conscience individuelle au centre de toute la construction de son option religieuse. Bon. Donc il y a un recentrement sur l'homme, et non pas sur l'ordre transcendantal, en même temps que l'espace géographique dans lequel tout ça peut se passer fait exploser les frontières topographiques de la chrétienté. Donc il y a un renversement au moment de la Renaissance qui est absolument complet. Ce qui est fascinant chez Ignace, c'est qu'il va en avoir l'intuition spirituelle intime et historique de manière radicale, puisqu'il sera l'un des grands apôtres de la mission chrétienne en voyant Saint François Xavier conquérir les Indes et l'Extrême-Orient, tout en étant lui-même dans une part de sa piété personnelle et de son histoire personnelle, tout en étant resté un homme du Moyen-Âge. Donc il est véritablement entre les deux. Donc ça, c'est un moment très intéressant. Alors Pamplune, c'est intéressant, pourquoi aussi? Quand on lit des biographies classiques d'Ignace, on a l'impression que voilà un jeune homme ambitieux qui a été dans une affaire de rencontre, la Pamplune, il a pris un mauvais boulet et Dieu en a profité pour lui parler, tant mieux pour lui. En fait, c'est pas ça du tout, c'est-à-dire que la bataille de Pamplune est une bataille absolument centrale pour la conquête de l'hégémonie en Europe, entre François Ier et Charles XV, entre la couronne de France et le royaume austro-hispano-néerlandais. Et donc c'est un moment absolument central, le pouvoir espagnol paraît vaciller, 1521, le pouvoir espagnol a vacillé à cause de la révolte des Comuneros de Castille, qui sont hostiles à l'arrivée au pouvoir des ministres néerlandais de Charles Quint. Les communes espagnoles se révoltent, une partie de l'ordre féodal se révolte, l'Espagne vacille et la France se dit « c'est le moment ou jamais de desserrer l'étau austro-espagnol et d'asseoir mon hégémonie sur l'Europe ». Donc c'est un moment absolument fondamental. Et le verrou de ça, c'est la ville de Pamplune. Et donc, alors, je dis ça avec une certaine exagération, mais c'est pas du tout un combat de rencontre. Imaginez un capitaine tout à fait inconnu qui arrive à Verdun, qui écarte le général Nivelle d'un côté, le général Pétain de l'autre, et dit « c'est moi qui commande ». Et curieusement, tout le monde le suit. Alors, ça n'est pas cette échelle, c'est pas une bataille à 1 million d'hommes, etc. Mais c'est ça qui s'est passé à Pamplune. C'était pas un militaire, il faisait partie d'une des 12 familles principales du Pays Basque, mais c'était un page de cour qui avait mené des fonctions de négociation, qui avait été au service du trésorier de Castille, qui s'était jamais battu de sa vie, sauf qu'il avait donné 3 coups d'épée dans des duels en tuant probablement quelqu'un d'ailleurs. Mais voilà, et c'était un... Il va arriver dans cette ville de Pamplune, assiégé par des forces françaises 5 fois supérieures aux forces espagnoles qui en plus n'avaient pas été payées, qui n'avaient pas d'artillerie, les Français étaient bourrés d'artillerie. Cette place devait tomber, il convainc le conseil municipal de Pamplune de résister, et il convainc les 2 militaires professionnels, dont un général qui sont sur place, qui sont eus des généraux du roi d'Espagne, de résister jusqu'à la mort. Alors qu'il n'a jamais entendu siffler une balle de toute sa vie. Alors déjà il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette aventure. On a beaucoup dit ensuite, quand il prend son boulet, qu'il est malade et qu'il commence à être gagné par le remords, qu'il était gagné par le remords de sa vie passée. Vous voyez, c'est-à-dire d'avoir aimé les femmes, d'avoir aimé les duels, d'avoir été ambitieux, etc. Mon sentiment intime, mais je vous dis, ça c'est un peu de transposition romanesque, parce que c'est celui que j'aurais éprouvé à sa place, c'est qu'il était également gagné par le sentiment de l'imposture. Voilà un type qui n'était pas militaire, qui a convaincu tout le monde de résister alors que la bataille était perdue, pour des fins qui sont uniquement des fins de gloriole personnelle, qui a fait tuer des milliers de gars dans cette aventure, qui pour finir a pris un boulet et se retrouve tout seul. Son sentiment d'imposture et de fausseté devait être extrêmement, extrêmement profond. Et ça, c'est également probablement une des clés de son comportement ultérieure. Mais c'est ça, pour moi, l'élément décisif de Pamplune. C'est plus important qu'on ne le croit, et ça a probablement déterminé chez lui un sentiment d'imposture extrêmement
vif. C'est aussi une bataille qui, sur le plan des techniques, des moyens de combat, est nouvelle pour lui. Lui, il a l'habitude de tirer son épée. Là, il y a les canons.
Vous avez raison. Ça aussi, c'est le monde moderne. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a un texte absolument splendide auquel... je suis toujours content de ce genre de conférence, parce que ça permet... non seulement de parler de ses livres, ce qui est toujours agréable, mais de faire partager des goûts littéraires sur des livres qui ont peut-être été oubliés ou qui ont disparu. En redescendant, je dis pas ça parce que la librairie Mola m'invite gentiment, mais en redescendant, il y a un magnifique rayon Pléiade, et dans le rayon Pléiade, vous avez les œuvres complètes de Machiavel. Alors, j'ai toujours trouvé que les œuvres complètes de Machiavel étaient très emmerdantes, y compris Le Prince, sauf probablement pour les spécialistes. Mais dans les œuvres complètes de Machiavel, c'est Jean Giono qui a fait la préface. Il fut un temps où les éditions Gallimard ne donnaient pas des préfaces à faire à des universitaires, mais à des écrivains, et c'est souvent fascinant. Par exemple, puisqu'on est à Bordeaux, si je me souviens bien, la préface des œuvres complètes de Montesquieu est faite par Roger Caillois. C'est un chef-d'œuvre. C'est lisible par un élève de 4e. C'est d'une intelligence lumineuse. Ça ne comporte pas une référence. C'est absolument parfait. Et la préface aux œuvres complètes de Machiavel est donnée par Giono. Et dans cette préface, Giono explique comment Machiavel, à peu de choses près, à 60 ans près, l'époque d'Ignace en réalité, comment Machiavel manifeste la fin d'un monde et l'entrée dans l'autre. La fin du monde du Graal, la fin du monde de l'amour, de la loyauté, du service. Je parle des représentations, hein, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que ça dans le Moyen-Âge. Mais la fin d'un monde enchanté... Et on rentre à présent dans un monde désenchanté. Le monde de la politique, le monde de la politique technique, le monde de la parole qu'on ne tient pas, etc. Alors ça se manifeste sur le plan de l'art de la guerre. Et par exemple, Ignace avait la tête farcie de romans de chevalerie. D'ailleurs, quand il va être malade, il va demander à lire Amadis de Gaulle. C'est l'époque de Cervantes, quoi. C'est une sorte. Il a un côté Don Quichotte, Ignace de Loyola, dans ses débuts. Et c'était ça qui le fascinait, c'est-à-dire la chevalerie. Alors que le combat de son époque, le premier et le dernier auquel il participe, c'est déjà le combat moderne. Il prend un boulet tiré à 600 mètres de là par des gens qu'il n'a pas vus. La moitié des gens qui sont morts à coups d'arquebusade. Le chevalier Bayard, par exemple, ce grand homme, faisait couper les mains des arquebusiers quand il les prenait. Il leur faisait couper les mains. Parce que les arquebusiers étaient contraires à toutes les règles de la chevalerie. Ces types qui en tuent d'autres de loin sans se voir dans les yeux, c'était contraire à toute forme de chevalerie. Et c'est ça le monde dans lequel rentre Ignace. C'est véritablement le monde moderne. Il est le premier à avoir l'intuition du monde infini, du monde moderne, du monde de la technique, d'un monde où il est complètement vain de vouloir reconstituer de l'extérieur une espèce de cité de Dieu imaginaire ou imposer de l'extérieur aux hommes un ordre transcendant. Et ça va déterminer l'ensemble de ses réactions ultérieures, y compris en matière de mission.
Et alors, vous pouvez maintenant nous parler, en effet, de ce qui se passe après la blessure, de ce retour au Pays Basque, du voyage, et puis ensuite de ce que vous avez évoqué, n'est-ce pas, de la manière dont il est malade et ce qui se passe.
Oui, et puis après, peut-être que mon enthousiasme ignatien suscitera des questions de la salle.
Oui,
parce que
bien sûr.
Il y a deux, si vous voulez, je vais le dire de manière synthétique, mais il y a deux moments très intéressants et qui sont d'ailleurs absolument passionnants parce qu'ils permettent d'éclairer un peu le mécanisme de la conversion. En fait, Ignace est un homme, d'abord il est plutôt jeune, hein, à l'époque il a plus de 30 ans, c'est un homme d'une volonté absolument prodigieuse, d'un esprit politique considérable, d'un très très grand réalisme. Enfin, c'est pas du tout, ça n'est pas du tout un maboule, vous voyez. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout quelqu'un qui voit la Vierge comme Mathieu de Montmorency au moment de la Restauration. Quoi. Je veux dire, c'est pas du tout un cintré. C'est quelqu'un d'un réalisme extrême, d'une puissance de volonté considérable et qui est plus d'ailleurs un cérébral qu'un imaginatif. C'est pas quelqu'un qui passe son temps. C'est certainement pas quelqu'un qui passe son temps à rêver. Et c'est cette nature-là que, si l'on y croit, je vais le dire avec les mots de quelqu'un qui croit, hein, c'est cette nature-là que Dieu empoigne pour en faire, pour lui montrer quelque chose. Et là, c'est très intéressant parce que ma conviction, c'est que Ignace va, en quelque sorte, errer pendant toute la première partie de sa conversion. Il est couché, il s'ennuie, il demande à lire des livres de chevalerie, il n'y en a pas, il n'y a que des livres de contes, on lui donne deux livres, ça l'ennuie de les lire, c'est La vie des saints de Jacques de Voragine, enfin La légende dorée, La vita Christi de Ludolphe le Chartreux. Il commence à les lire et tout d'un coup, par une espèce d'effet mystérieux, le divin, un appel qui n'a pas grand-chose à voir avec la piété de son enfance, parce que c'était un catholique très pieux, normal, etc., mais une sorte d'appel personnel qui n'a rien à voir avec la religion, vous voyez ce que je veux dire, avec au sens où le Père Moins distingue la foi, la croyance et la religion, mais qui n'a rien à voir avec la religion du dimanche, la religion des rites, la religion... Non, un appel rigoureusement personnel, qui ne s'adresse qu'à lui, dans une langue qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais entendue, dont il ne peut pas parler, s'adresse à lui à travers ses livres. Et le moyen qu'il trouve d'y répondre, c'est le moyen de l'imitation. C'est-à-dire, au fond, j'ai servi le roi d'Espagne, j'ai eu tort, maintenant je vais servir le roi du ciel, par celui-là au moins je ne serai pas déçu. D'ailleurs, là-dedans, il y a probablement une part de déception politique, puisque son premier patron, entre guillemets, le trésorier de Castille, avait été trahi par le roi, et donc il avait pu mesurer la vanité et le côté un peu friable de l'attachement des grands. Il se dit, au fond, au moins, par Dieu, je ne serai pas... Alors, à partir de là, il fait, vous savez, comme quelqu'un qui aurait décidé de rentrer dans l'armée et qu'il irait par le sang versé de Bonne Carrère en se demandant ce que les anciens de la Légion ont fait en Indochine et qu'ils auraient la manière de faire un bon soldat, c'est juste de recopier ça et de faire pareil. Il fait exactement pareil. Il prend la vie des saints et il dit « je vais faire ce qu'ont fait Saint-François et Saint-Dominique ». Alors, il y a une chose qu'il ne comprend pas, c'est ce qu'ont fait Saint-François et Saint-Dominique, ça a été d'écouter Dieu. Et en fait, pendant toute une première partie, probablement, il écoute moins Dieu, mais il y a un effet de son incroyable enthousiasme, même physique, il écoute moins Dieu qu'il n'essaye de précéder sa parole par l'ascétisme, la veille, le jeûne, la mortification, etc. Donc pendant toute la première partie de sa conversion, au fond, il entend une voix qu'il n'a jamais entendue, et il essaye d'y répondre selon ce qu'il était, quelqu'un qui était obsédé par l'idée de la chevalerie et du bien agir dans le cadre d'un amour chevaleresque. Et puis il va à Montserrat, puis à Manres. Et là, à Manres, il connaît une expérience mystique absolument étonnante, c'est-à-dire qu'au fond... il est durement éprouvé par le silence de Dieu, qui lui retire toute parole, tout appui. Il n'entend rien, il ne sent plus rien, il est conduit dans les abîmes de la dépression, au bord du suicide, puisqu'il fera même s'approche d'une réelle tentative de suicide, et il veut, c'est une scène absolument extraordinaire, il veut forcer le silence de Dieu. Il décide de jeûner jusqu'à mourir, jusqu'à ce que Dieu lui parle. Et pour finir, il cesse de jeûner, il ne meurt pas, il est réduit dans une situation de désespoir total. Ce qui s'offre à lui désormais, c'est peut-être de retourner à Loyola vivre comme rien, c'est-à-dire comme quelqu'un qui aura renoncé à tout sans rien trouver, enfin, une situation proche de l'enfer. Et c'est à ce moment-là que, brutalement, il est saisi par une série d'aventures mystiques intérieures qui lui font penser que Dieu lui parle quand il a lui-même cessé de vouloir forcer le silence de Dieu. C'est-à-dire quand quand il se remet dans une situation où il n'y a même pas d'abandon, dans une situation de désespoir complet, eh bien c'est là où Dieu vient le chercher. Et là, il a une série de visions mystiques qui sont absolument fascinantes à observer, et dont la première est une vision de la création du monde, au sens de la création permanente du monde, et dont la deuxième... Il avait eu, dans la période de Morez, une vision très étrange, une espèce de boule formée d'énormément d'yeux qui lui provoquait une sorte d'hallucination, quoi. Enfin, une vision, une espèce d'énorme boule. Il la voyait, il se sentait content, apaisé, etc. Et en même temps, quand elle disparaissait, il se sentait triste et il n'était pas pleinement satisfait de lui-même. Et puis à la fin, il comprend que cette boule contient tout ce qu'il a aimé du monde et qui est répréhensible, y compris le désir de gloire, y compris... Et à la fin, il la voit réapparaître, il la chasse d'un coup de son bâton. Et il a conscience d'être libre parce qu'il a conscience de ne plus s'appuyer sur lui-même. Et c'est le début d'une aventure entièrement différente qui commence. Ce qu'il aura trouvé dans cette aventure, et c'est ça qui m'a fasciné aussi, c'est d'abord l'idée de la prééminence absolue de la conscience individuelle dans la détermination de la réponse à l'appel de Dieu. La deuxième chose, c'est un optimisme absolument inaltérable. C'est-à-dire qu'il faut voir que pour Ignace, le monde est déjà sauvé. Il est sauvé. Et donc, il ne s'agit que de coopérer à cette victoire qui est annoncée dans l'Évangile. Ayez confiance car j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, cette victoire est là, elle existe dans l'éternité. Nous n'en connaissons pas la réalisation terrestre, mais il s'agit de collaborer à une victoire qui existe. Il n'y a aucun pessimisme ignatien. Il ne voit pas le monde comme beaucoup, par exemple d'esprits religieux, même contemporains, comme au fond une sorte de petit réduit menacé par les forces du chaos et du paganisme. Il n'y croit pas du tout. Il pense que Dieu est partout, il pense que le Christ agit partout, que comme il était là dès avant la fondation du monde, il est également là, présent de manière éternelle et en même temps présent de manière invisible à l'intérieur du monde, et qu'il ne cesse de sauver le monde. Vous connaissez la phrase de Pascal sur Dieu est le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Pour Ignace, on pourrait dire qu'il sauve le monde jusqu'à la fin tous les jours. Et donc, il n'y a aucune raison. Donc, le deuxième point, c'est un optimisme absolument invraisemblable et qui débouche immédiatement donc sur l'action pratique, puisqu'il s'agit de savoir quoi faire pour collaborer au salut de ce monde qui est déjà là. Et puis, le troisième élément qui est passionnant, qui est très intéressant, c'est le mélange entre la psychologie et la volonté dans l'ordre spirituel. Il avait constaté que quand il était malade, certaines pensées lui procuraient de la tristesse, d'autres lui procuraient de la joie. Et après, il a eu la conscience assez claire que, en réalité, ce qui était bien devait procurer de la joie. Alors après, il y a les illusions du démon, tout ça est plus compliqué, mais globalement, il a cette idée qui va de pair avec son optimisme, que véritablement, la tristesse est mauvaise, et que la tristesse indique une impasse, une illusion, une erreur. Coïncider avec la volonté de Dieu, c'est coïncider avec son être profond, à soi, en dehors duquel il n'y a rien, et aussi se maintenir dans une joie permanente, alors que la tristesse est en général le signe de l'égarement. Et donc il y a une attention extrêmement grande portée aux états psychologiques qui est absolument fascinante chez lui. Et quand il quitte Morez, il est un homme entièrement différent, il a cessé de jouer à l'ermite, il s'est rasé la barbe, il s'est coupé les cheveux, il porte des vêtements propres, on ne le considère plus comme un fou de Dieu, comme disent les orthodoxes, et il a acquis une liberté à peu près totale, dont on voit la trace dans la correspondance, et qui en fait ça l'a transformé d'une certaine manière. En même temps, c'est toujours le même Ignace, il est toujours aussi réaliste, il est toujours aussi habile, il est toujours aussi sensible, mais il est entièrement tourné vers quelque chose d'invisible que nous autres simples mortels arrivons de temps à autre à percevoir. Mais que visiblement il voit lui avec une clarté absolument invraisemblable. Et ça donne à sa destinée une puissance tout à fait singulière.
J'aurais voulu qu'on puisse s'attarder un peu à Montserrat et à Manrez.
Morez, oui.
Oui, Morez. Car en effet, quand vous venez de le dire, là il va dans l'abaissement physique jusqu'aux extrémités, il devient une espèce d'épave humaine, il est traité pas comme un ermite, comme une espèce de déchet. Si vous voulez que le public pose quelques questions, il faut aller vite. Alors il y a juste un point qui me paraît essentiel, fondamental dans le livre, je sais qu'il l'est à vos yeux, mais vous venez dans la même phrase de dire deux choses contradictoires, et ces deux choses contradictoires, précisément, elles se rejoignent dans votre thèse, qui est que la conversion d'Ignace, c'est pas une conversion au sens où on l'entend habituellement. C'est-à-dire, conversion, on change complètement. Pas vous avez dit dans la même phrase, quand il quitte Morez, il est un autre homme. Et puis vous avez dit après, c'est toujours Ignace. Alors, une des thèses du livre, c'est que l'Ignace d'avant la conversion et l'Ignace d'après, c'est toujours le même homme.
Je vais l'exprimer d'une autre manière. Voilà. Je pense que, j'espère qu'Ignace ne m'aurait pas désavoué, mais la pensée profonde d'Ignace, c'est que seul Dieu nous rend nous-mêmes. Voilà, pour le dire, seul Dieu nous rend nous-mêmes. C'est-à-dire, avant qu'on l'ait soigneusement écouté et qu'on ait mis sa vie en ordre, on croit qu'on est nous-mêmes, mais on est autre chose que nous-mêmes, et seul véritablement Dieu nous rend nous-mêmes. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ça tranchait tout à fait avec, vous savez, un mécanisme de conversion, on dirait, alors avant, voilà un débauché abominable, un pécheur atroce, etc., puis tac, coup de baguette magique, et il cesse d'être mauvais pour devenir bon. Ça, c'est pas du tout une pensée ignatienne, c'est-à-dire qu'avant, il y avait les traces de ce qu'il était, la structure de ce qu'il était. Tout ceci était recouvert par une espèce de vernis mauvais qui est celui du péché. Et il se trouve décapé de ses passions et d'une certaine manière remis en ordre de marche, remis en ordre de fonctionnement. Donc c'est le même. C'est le même. Mais seul Dieu l'a rendu celui qu'il était, celui qui devait être au sens de Nietzsche, voyez, au sens de deviens ce que tu es. Voilà.
Son idée depuis le début, c'est de partir pour Jérusalem. Il va le faire,
ouais.
Mais après, après.
Après, voilà, après la fin du livre, ça rate d'ailleurs, hein, il va le faire, il veut se sacrifier, être mis à mort par les infidèles, en fait. Il a encore, même après, des idées assez... et puis finalement, il revient à Rome et il fonde la Compagnie de Jésus, mais début, il faut voir qu'il ne veut pas devenir prêtre, il ne veut pas fonder d'ordre religieux, il ressemble au type qui partait dans les déserts d'Égypte au IIIe siècle, hein. Il n'a pas du tout de visée institutionnelle particulière.
Et alors, en dépit de ce que vous avez dit tout à l'heure, mais c'est ce que vous dites oralement, n'est pas tout à fait conforme à ce que vous écrivez dans la postface ou l'appendice, je ne sais pas comment ça s'appelle. À partir du moment où, en effet, ils fondent les part pour Jérusalem, ils fondent les Jésuites, etc., ils vous intéressent beaucoup moins.
Il m'intéresse beaucoup moins parce qu'il y a plusieurs raisons, hein, très franchement. D'abord, le mécanisme de la conversion me fascine, c'est-à-dire comment un homme devient ce qu'il est véritablement, ce mécanisme me fascine. Après, c'est tout à fait autre chose, donc ça m'intéresse moins. Et puis aussi, c'est vrai que je me sentais capable, non pas que je sois un grand converti moi-même, mais je me sentais capable de reconstituer de l'intérieur... sur la base de mon expérience propre, ce que peut être une expérience de conversion, autant après, si vous voulez, écrire sa vie ensuite. Et c'est amusant parce que y a beaucoup de gens m'ont proposé d'écrire le Inigo 2, sur ce qui se passe après. Mais ça demanderait, si vous voulez, une connaissance exhaustive de l'histoire de l'Église de cette époque, puisque après, sa vie devient davantage institutionnelle. Que je ne possède pas et dont, à part les francs, je ne suis pas sûr qu'elle me passionne. Je ne suis pas sûr que l'histoire de l'Église me passionne, autant l'histoire d'Inigo, elle, me requiert profondément, autant, il y a après des tas de choses qui suscitent moins mon intérêt personnel.
Peut-être la fin de la vie, puisque vous avez cité le... C'est le journal mystique, et cette phrase absolument admirable, ma conviction est que je suis un obstacle.
Il faut que je trouve la... c'est pas dans le journal mystique, c'est la lettre à François de Borgia, où il dit « Ma conviction est désormais que je ne suis qu'obstacle à la grâce divine ». Alors après, il meurt. J'ai commencé le livre par sa mort, parce que sa mort me paraît fascinante, parce que sa mort est d'une simplicité absolument incroyable. Son secrétaire et les pères qui vivaient avec lui dans la maison de Rome n'étaient pas convaincus qu'il mourrait aussi vite, d'autant qu'il y avait Lénès, qui était son successeur, était beaucoup plus malade que lui au moment où il est mort. Et en réalité, il est mort sans avoir reçu la bénédiction du pape.
On va pas chercher de prêtre, on va pas chercher...
On va chercher personne.
Ni de médecin.
Ouais.
François Sureau, je ne suis pas sûr que nous lirons Inigo 2, on verra. Et j'espère, en tout cas, j'attends avec impatience votre prochain livre. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez dit ce soir. Et peut-être avant de sauter dans le taxi, avez-vous le temps de signer quelques livres si on vous les présente. Merci.
Absolument.
Merci beaucoup.